La personnalité nous caractérise, c'est notre carte d'identité pour nous définir et les recruteurs cherchent par exemple à déterminer les grands traits de notre personnalité pour mieux cerner les individus auxquels ils ont affaire. Mais que sait-on à ce sujet? La personnalité dépend-elle de notre patrimoine génétique, de notre environnement social ou de notre éducation? Est-ce que nos grands traits de personnalité peuvent varier au cours du temps? Et est-ce qu'on peut parler de personnalité pathologique? Autant de questions que nous allons aborder cet après-midi dans La Tête au Carré en partenariat avec le magazine Cerveau et Psycho. J'attendais maintenant vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Agnès Sèvre, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui l'influence de l'appartenance sociale sur le système immunitaire, mais et chez les macaques. Hein.
Voilà, encore une question d'inégalité face à la maladie. Des chercheurs montrent que des macaques rhésus réagissent différemment aux agresseurs selon leur rang dans l'échelle sociale, mais ils expliquent cette influence du statut social au niveau moléculaire et cellulaire. On en parle avec le psychopédagogue Bruno Humbeck.
Et puis vous le savez sûrement, c'est aujourd'hui la journée anniversaire de La Tête au Carré avec ce soir la grande soirée qui sera diffusée sur France Inter de 20h à 22h avec un plateau de scientifiques français de rêve réunis donc au studio 104 de la Maison de la Radio pour fêter la science. Et avant de la fin de l'émission, vous entendrez justement un extrait de cette soirée. C'est Céline Hilla qui réalise aujourd'hui cette Tête au Carré préparée par Lucie Sarfati.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les dimensions de la personnalité, dossier donc dans quelques minutes avec mes invités Sébastien Bollaire pour Cerveau et Psycho. Sébastien avec moi en studio, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et puis le professeur de psychopathologie Grégory Michel en duplex de France Bleu Gironde à Bordeaux. Bonjour à vous Grégory Michel.
Bonjour Mathieu.
Sébastien, on est capable aujourd'hui de chiffrer précisément les dimensions de la personnalité?
Oui, de savoir qu'il y en a 5, oui. C'est une recherche qui est très ancienne, qui a commencé il y a presque un siècle, ouais. Et aujourd'hui qui fait l'objet d'un consensus. Au terme de décennies de recherche, on s'est rendu compte que tout le monde finalement a une personnalité qui peut se décrire en 5 dimensions. On en parlera.
On va bien sûr égrener ces dimensions tout à l'heure. Grégory Michel, les troubles de la personnalité, ça concerne beaucoup de personnes dans la population, parce qu'on va parler de l'aspect pathologique avec vous.
Oui, écoutez, ça peut concerner. Alors, tout dépend comment on évalue, on va dire, les troubles de la personnalité. Mais selon, effectivement, les études, ça peut varier de 5 à 15%. Il y a même certaines études qui vont jusqu'à 20% de la population.
Et c'est beaucoup. On se retrouve donc dans un instant pour en discuter avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent, les questions franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque. Et à la une de la science aujourd'hui, les liens entre le statut social et la santé. On a déjà pu établir des corrélations nombreuses et diverses. On sait par exemple qu'en France, l'espérance de vie d'un cadre est plus élevée que celle d'un ouvrier. Mais est-ce qu'on peut expliquer ce type d'association sur le plan biologique? Eh bien, c'est la question que se sont posées des chercheurs américains et canadiens en menant une expérience pendant 2 ans chez des macaques rhésus. Il ressort de leur étude parue dans Science que l'appartenance sociale altère le système immunitaire. Bonjour Bruno Humbeck.
Bonjour.
Vous êtes psychopédagogue, professeur à l'université de Mons en Belgique. Alors on se doute qu'un individu précaire est plus vulnérable aux maladies parce qu'il a moins de ressources. Mais là, les chercheurs nous disent qu'à ressources égales, les systèmes immunitaires de 2 individus répondent différemment selon que leur rang social est précaire ou élevé. Là on est plus dans les corrélations entre la position sociale et la santé, hein.
Exactement. Hein. C'est par hasard qu'ils ont choisi les macaques pour le démontrer, hein, parce que les macaques ont une hiérarchie sociale qui est terriblement figée. Il suffit pour se rendre compte d'observer des macaques japonais, par exemple, hein, où vous allez avoir une tendance des dominants à prendre des places dans les eaux chaudes, donc avoir effectivement plus de confort et donc de chances de survie, avec des eaux chaudes de près de 30 degrés, alors que les dominés, eux, et c'est fait de manière quasiment héréditaire, hein, les petits dominés n'ont pas accès non plus à l'eau chaude, et donc se retrouvent à moins 10 autour des eaux chaudes, avec des chances de survie évidemment diminuées. Alors la vraie question qui se pose dans une corrélation, c'est on la prend par quel bout? Est-ce qu'ils sont en mauvaise santé et donc ils sont dominés parce qu'ils sont moins costauds, ou est-ce que étant finalement moins costauds, ils restent dominés? Et donc le principe de cette recherche, c'est surtout d'avoir joué sur les rangs sociaux en faisant introduire à l'intérieur de ces groupes des macaques femelles, hein, puisque ce sont chez les macaques les femelles essentiellement qui restent dans le groupe et c'est les mâles qui migrent. Ils ont fait rentrer des femelles et ils se sont rendu compte que c'est plus que finalement la stabilité du système immunitaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on évolution en fonction du fait qu'on monte ou pas dans la hiérarchie. Hein. Donc ce sont les ascensions ou les descentes sociales qui sont finalement plus préjudiciables que la stabilité du système immunitaire qui expliquerait tout. Donc il ne s'agit pas de mettre en place une explication biologique de l'ancrage social, par exemple.
Mais il y a quand même une explication de façon objective à la façon dont le statut social peut influencer le système immunitaire.
Évidemment, mais de nouveau, les macaques dans le jacuzzi le montrent très bien. Si vous êtes moins stressé, si vous avez moins de stresseurs environnementaux, et d'autre part, plus dépouillage, c'est-à-dire vous êtes cajolé par votre environnement, eh bien, ça aurait une influence sur le système immunitaire. Donc, c'est le stress aussi subi qui va influencer le système immunitaire en fonction de ce qui est vécu.
Ce stress, il est, tout à l'heure, vous parliez des mobilités sociales. Selon qu'on va du bas vers le haut ou du haut vers le bas, dans la mobilité sociale, justement, ce stress est identique ?
Non, justement, c'est ça. Dès que vous chutez dans la hiérarchie de manière brutale, ce qui explique que la peur du déclassement, par exemple, va générer des maladies comme le burn-out, dont on peut trouver l'origine aussi biologique, avec une immunité qui risque de diminuer aussi, vous êtes plus sensible aux maladies, de la même façon qu'un macaque, lorsqu'il s'effondre dans les hiérarchies sociales, c'est-à-dire lorsqu'il sort du jacuzzi, va s'exposer effectivement d'abord à des conditions objectives de survie plus difficiles, mais avec aussi un système immunitaire qui s'affaiblit. Et donc l'un entraîne l'autre.
Bruno Imbé, quels sont les exemples de changements biologiques observés justement dans le système immunitaire de ces macaques rhésus ?
Alors, il y en a de deux ordres, hein. C'est-à-dire que ce qui pourrait être protecteur, parce qu'une inflammation, par exemple, peut être un élément protecteur pour l'individu, eh bien, chez le macaque en situation dominée, ça devient un facteur aggravant. Donc, la même réaction biologique, parce que, effectivement, il y a des marqueurs biologiques qui vont s'activer différemment chez l'un et chez l'autre, et vous aurez donc un effondrement beaucoup plus massif du système immunitaire défensif, avec même des réactions défensives de l'organisme qui deviennent paradoxalement, à ce moment-là, offensives.
Et les chercheurs ont identifié 1676 gènes qui étaient sensibles au rang social. C'est la première fois qu'on arrive à démontrer ce genre de choses.
Ça, c'est vraiment quelque chose de tout nouveau, hein, puisque effectivement leur dispositif expérimental est unique. Hein. C'est la première fois qu'on le voit et qu'on identifie précisément les gènes. On a tous eu l'intuition de ce rapport entre le positionnement social et l'immunité, mais on ne pouvait pas le démontrer aussi objectivement que dans cette recherche.
Bruno Imbeck, les chercheurs se sont également amusés à introduire un nouveau singe pour bouleverser justement la hiérarchie du groupe. Est-ce que le niveau de stress change beaucoup selon qu'un individu passe de dominé à dominant ou l'inverse ?
Voilà, c'est exactement ça qui est le côté tout à fait novateur. C'est-à-dire qu'ils ont, on a toujours le sentiment que dans les sociétés, notamment des sociétés de macaques, il y avait une reproduction quasi systématique du rang social, presque par hérédité. Ici, en introduisant des singes à des moments différents, on s'est rendu compte que c'est le moment où on l'introduit qui était le premier élément. Mmh. Pour le dire simplement, quand on introduit un premier singe, il prend une position alpha. Un deuxième va prendre une position gamma ou oméga, et donc en fonction du moment où on l'introduit. Ce qui laisse penser quand même que les marqueurs biologiques sont très sensibles et très fluctuants en fonction du rang que vous allez prendre. Et sur ce plan-là, les ascensions sociales, c'est-à-dire pas seulement le fait d'être soumis à moins de stress, mais aussi être davantage cajolé. Par exemple, chez le grand singe, épouillé. On peut supposer que comme l'épouillage correspond en gros chez l'être humain à la conversation anodine, si une personne monte en situation sociale, un SDF par exemple, à qui on va parler un peu plus, à qui on va prêter un peu plus d'attention, pourrait effectivement à long terme améliorer son système immunitaire.
Ça a été montré d'ailleurs dans l'étude, quand on va... Ces différences immunitaires sont donc réversibles.
Sont tout à fait réversibles. Ça, c'est pour moi l'élément essentiel de cette recherche, c'est qu'on n'est pas dans un constat qui était cette corrélation qu'on connaît, qu'on devinait, qu'on pourrait simplement objectiver de cette manière-là. Ici, on va au-delà. On montre aussi qu'en produisant des variations au sein du groupe de macaques, on a des variations aussi dans le système immunitaire. Donc rien n'est irréversible. Dans un sens comme dans l'autre, hein. La peur du déclassement qui produit aussi à un moment donné des symptômes de stress accru, des symptômes aussi qui vont se manifester également, y compris chez l'être humain, sur le plan immunitaire.
Voilà, donc une étude intéressante sur le macaque, mais qui pourrait peut-être permettre également de réfléchir à une meilleure protection des individus plus précaires, par exemple. Hein. Merci beaucoup en tout cas Bruno Imbeck pour votre éclairage. Et puis Agnès, on se retrouve prochainement.
Demain.
Demain, exactement. Bonne journée, à demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les coraux toujours plus menacés dans la Grande Barrière en Australie. Les deux tiers d'entre eux ont blanchi en 9 mois sur une distance de 700 km, soit environ un tiers de la longueur totale de ce récif corallien. C'est une hécatombe. Selon cette étude menée par le centre de recherche de l'université australienne James Cook, il s'agit sans doute doute du dépérissement le plus grave jamais observé. Le blanchissement des coraux est un phénomène qui peut causer leur mort. Il est lié au réchauffement de la température de l'eau qui provoque une calcification du corail. L'augmentation du trafic marin dans cette zone est également pointée du doigt. Une mission finale qui a valeur d'apothéose. La sonde Cassini en orbite autour de Saturne depuis 2004 a entamé aujourd'hui une série d'explorations vers des zones qu'elle n'a encore jamais franchies. Au programme 20 passages vers l'anneau F, le plus externe des anneaux denses de Saturne, dont la sonde a déjà photographié les banderoles lumineuses. En avril, Cassini mettra ensuite le cap vers l'anneau D, le plus interne. Elle devra récupérer des échantillons de particules et de gaz ou encore prendre les vues les plus rapprochées jamais réalisées de Saturne. C'est sa dernière mission avant sa chute finale en septembre 2017, 20 ans donc après son départ de la Terre. Et puis si vous souhaitez vivre plus longtemps, eh bien à vos raquettes. Selon une enquête de chercheurs australiens réalisée sur 80 000 adultes, les sports de raquettes comme le tennis ou le badminton sont ceux qui offrent le plus de chances de diminuer les risques de mortalité, risque qui diminue dans ce cas de 47%. Autre sport préconisé, le cyclisme, la natation, le fitness. En revanche, les amateurs de course à pied ou de football seront déçus. Aucun de ces sports n'a amélioré l'espérance de vie dans cette étude parue dans le journal britannique de médecine sportive. Allez, nous explorons dans un instant les traits de la personnalité avec nos invités et bien sûr vos messages et vos questions, voire vos témoignages sur le site de l'émission. Tangerine, Christophe et Alan Vega sur France Inter.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et les différentes dimensions de la personnalité, dossier de l'émission cet après-midi avec le magazine Cerveau Psycho. Mes invités, Grégory Michel, vous êtes donc professeur de psychopathologie à l'université de Bordeaux. Vous co-dirigez l'équipe INSERM LC Santé et Réussite des Jeunes. Et puis vous avez publié en 2006 chez Duno, Personnalité et développement du normal au pathologique. Et vous êtes donc en duplex des studios de France Bleu Gironde, Grégory Michel. Et puis avec moi en studio, Sébastien Boller. Vous êtes le rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Et les auditeurs nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé latin. Comment se construit donc la personnalité de l'enfance à l'âge adulte? Quelles sont les différences entre une personnalité normale et une personnalité pathologique? Ce sont les questions qui nous intéressent cet après-midi. Sébastien, une personnalité, d'abord, ça correspond à quoi? Ça dit quoi, au fond? C'est une sorte de carte d'identité de la personne?
La personnalité, c'est un ensemble de traits, de fonctionnements mentaux et de comportements qui vous caractérisent, c'est-à-dire qui se manifestent de façon régulière dans votre vie quotidienne et qui vous distingue voilà des comportements ou des types de fonctionnements mentaux de votre voisin ou de votre frère, de votre sœur, n'importe qui. Mm-hmm. Donc c'est pas évident à définir, mais justement il y a eu donc quand même des décennies de recherches. Ça part de très loin, ça part vraiment de voilà du début même du 20e siècle, quand en utilisant la méthode empirique, vraiment mm-hmm. les psychologues scientifiques se sont demandé finalement, quand on parle de personnalité, est-ce que ça peut être analysé, est-ce qu'on peut déceler une structure finalement dans ce qui fait notre unicité? Parce que la question qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on est chacun un être unique? Alors on sent tous qu'on est unique, et aujourd'hui même en neurosciences on voit qu'aucun cerveau n'est identique à un autre cerveau, mais dans ce qui fait ma subjectivité, ma personnalité, qu'est-ce qui fait que je suis unique? Et c'est pour ça que la question d'une structure interne de notre personnalité est essentielle.
Grégory Michel, est-ce qu'il y a une définition officielle de la personnalité dans les manuels de psychologie, par exemple?
La définition, c'est finalement celle qui a été dite, c'est-à-dire que c'est une sorte d'organisation comme ça, dynamique, qui fait intervenir quand même des traits, on va dire des traits qui sont biologiques, des traits aussi qui sont plutôt sur le versant de l'expérience, de l'acquisition, et qui vont déterminer une sorte d'adaptation de l'individu à son milieu. Alors ce qui est intéressant effectivement maintenant de reprendre dans une définition de la personnalité, pour aller, on va dire, un petit peu plus loin, c'est-à-dire c'est d'explorer, on va dire, les facettes qui justement permettent d'être dynamique au sein de la personnalité. Une des facettes qui est très importante, c'est celle de la notion de tempérament. Et l'autre facette, c'est celle de caractère. Alors le tempérament, qu'est-ce que c'est? Le tempérament, c'est finalement la partie biologique de la personnalité. C'est-à-dire, c'est la partie un petit peu constitutionnelle, ce que certains d'ailleurs définissent comme, on va dire, la partie génétique, ce qui va être hérité de nos parents, et certains considèrent même le tempérament comme quelque chose de l'ordre d'un phénotype. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la personnalité chez l'enfant, on parle plutôt du tempérament. Et puis il y a le caractère, c'est-à-dire ce qui va être, on va dire, appris par l'éducation, appris aussi par l'environnement non partagé, c'est-à-dire ce qui se passe à l'école, avec les copains, et tous ces éléments-là vont finalement interagir entre eux et vont donner naissance à une personnalité. C'est-à-dire que la personnalité n'est pas figée, et c'est une personnalité qui va se façonner au cours du temps.
Donc le on va dire que le tempérament, c'est la chose la plus déterminée au fond, et puis après il y a la partie acquise avec effectivement le caractère, et tout ça va interagir en fait.
Exactement, c'est-à-dire que le caractère, par exemple, va, lorsqu'on peut parler par exemple d'une sorte de maturité, on va dire, liée à un caractère tel que la coopération ou la détermination, eh bien cette maturité, on va dire, sociale, c'est-à-dire ce qui va être lié notamment à l'intégration des règles, des lois, du fonctionnement social, va permettre aussi d'agir sur l'expression du tempérament. Par exemple, un tempérament qui peut se caractériser par une très forte, on va dire, énergie ou impulsivité, peut être effectivement canalisé par le fait que la personne va se rendre compte que cette impulsivité peut la mettre en danger, justement, dans certaines situations sociales, professionnelles, familiales.
Ah ben justement, pour illustrer ce sujet, voici un extrait des Émotifs anonymes avec Benoît Poulvorde.
Ce qui me fait peur, c'est la timidité. Que quelqu'un entre dans mon intimité. Pour mon père, c'était la même chose. Il avait peur.
Peur de quoi ?
Il avait peur de la situation mondiale, de la guerre nucléaire, oui, ce genre de choses. Il avait peur des clients, peur des contrôleurs d'impôts, peur des maladies forcément, mais peur des traitements. Il avait peur à peu près de tout. Il avait une phrase favorite. Pourvu qu'il ne nous arrive à rien. Il répétait ça sans cesse. Pourvu qu'il ne nous arrive à rien.
Voilà, ça ne doit pas être facile de se construire dans ces conditions-là. Sébastien Boller, là, on a un trait de personnalité à travers la peur décrite par le personnage de Benoît Poulvorde.
On a envie de rapprocher ça, effectivement, d'un des cinq grands traits de la personnalité. En fait, ce qu'on appelle plutôt les dimensions.
Oui.
Parce que vous savez, il y a cinq dimensions, et dans chaque dimension, il y a ce qu'on appelle des traits.
Bah, je ne le savais pas qu'il y avait cinq dimensions. Vous nous l'apprenez, figurez-vous. Alors, et c'est quoi cette histoire?
C'est vraiment un grand... Ouais. On s'est dit, justement, c'est un grand classique de la psychologie. En fait, c'est ce qui fait le plus consensus en psychologie différentielle.
Alors, si tout le monde est d'accord, qu'est-ce que ça nous dit, ces cinq dimensions,
ça nous dit que, en fait...
Ce sont les grands traits de caractère?
Moi, à chaque fois que on me pose cette question, on me dit, mais comment c'est possible qu'il y ait 6 milliards d'hommes et de femmes sur Terre et qu'on puisse tous dire qu'ils ont 5 dimensions et qu'ils sont tous uniques?
Quelles que soient les cultures, on peut dire ça?
Ça se retrouve très bien d'une culture à l'autre, effectivement. Il y a des études transcontinentales qui ont été menées et on retrouve toujours les 5 grandes dimensions. La meilleure image qui permet de le comprendre, c'est que vous voyez par exemple toute la palette des couleurs.
Oui.
Couleurs de l'arc-en-ciel, les spécialistes de l'optique vous expliqueront qu'il y a des dizaines de milliers de tons dans l'arc-en-ciel. Mais en fait, vous pouvez décrire chaque ton dans l'arc-en-ciel par 3 couleurs. C'est ça l'idée des dimensions, c'est que vous allez juste varier le niveau du jaune, le niveau du bleu, le niveau du vert, et vous obtiendrez toute la palette. Mmh. Et ben c'est pareil avec les 5 grandes dimensions de la personnalité. Vous allez avoir un profil qui sera le vôtre et qui sera comme une empreinte digitale.
Alors, quelles sont ces grandes dimensions, Sébastien, alors?
Alors, il y a des dimensions, donc celles dont je venais de parler, en fait, parce que j'ai pas répondu tout à fait sur Benoît Poulvorde. Là, il fait penser à une des grandes dimensions qui est le névrosisme. Alors, le névrosisme, ça fait penser à névrose. En fait, c'est pas ça que ça veut dire. Ça décrit une tendance à ruminer des émotions négatives, avoir aussi des hauts et des bas, avoir ce qu'on appelle une instabilité émotionnelle. Voilà, une espèce de difficulté intérieure à gérer son affect.
On voit dans l'exemple.
Voilà, c'est des gens qui vont avoir plus tendance à basculer dans des moments d'émotions négatives, à réguler leurs émotions, ça va être plus difficile aussi pour eux, voilà. Mmh. Et donc, vous avez deux pôles sur cette dimension-là. C'est-à-dire que vous allez avoir les grands instables émotionnels, les grands névrotiques, et puis ceux, au contraire, qui sont pas du tout névrotiques, à l'autre opposé, qui sont plutôt bien dans leur peau, qui ont un affect plutôt stable, qui sont plutôt contents tout au long de la journée et de façon plutôt assez lisse, comme ça. Mmh. Et évidemment, sur cette dimension, puisque c'est un continuum, chacun va se situer à un point donné. Et en général, la plupart des gens se situent entre les deux. On n'est ni hyper névrotique, ni pas du tout. Voilà. Ça, c'est donc une première dimension de la personnalité. Et puis après, vous avez d'autres dimensions qui se réfèrent plus à notre rapport aux autres. Vous avez une dimension qui s'appelle l'agréabilité. Mmh. Est-ce que vous avez tendance à être plutôt bienveillant vis-à-vis d'autrui, plutôt altruiste, à envisager les relations humaines sous un angle positif, à vous soucier des autres, à essayer d'être conciliant, voilà. Donc si vous êtes très agréable, très haut dans cette dimension, donc vous allez être très agréable socialement, très altruiste. Mm-hmm. Si vous êtes très bas, au contraire, vous êtes plutôt dans un rapport un peu hostile, un peu distant, plutôt prêt même à être froid avec les autres, voire à les utiliser. Et alors il y a une autre dimension qui semble s'en rapprocher un peu, mais qui en fait est très différente, c'est l'extraversion.
Oui.
Donc c'est la tendance à aller facilement vers les autres, ce qui ne veut pas dire qu'on a forcément de la bienveillance pour eux, mais c'est des gens qui occupent toujours le devant de la scène, qui aiment les sensations fortes, qui aiment les fêtes, qui aiment le monde, qui aiment le bruit. Et à l'opposé, les introvertis qui, eux, vont plutôt rechercher le calme, qui ont moins d'amis, mais des amis choisis, que les grands rassemblements de foule fatiguent très vite. On les reconnaît très
oui,
vite.
Oui, oui.
Et puis ensuite, vous avez des dimensions de la personnalité qui sont plus dans le côté un peu cérébral comme ça, qu'on appelle l'esprit consciencieux, le caractère consciencieux. Voilà. Alors là, ça désigne la capacité à se fixer des règles, à les respecter, à être précis, à être méticuleux, à être ponctuel, à être organisé. Souvent, c'est un gros avantage pour réussir sur le long terme, parce qu'il faut pouvoir se fixer des règles et les obtenir, se fixer des buts, être très fiable aussi. À l'inverse, c'est les gens complètement désinvoltes, qui arrivent pas du tout à se concentrer de façon poussée sur quelque chose de rébarbatif, qui ont besoin d'être toujours stimulés, qui vont être plus impulsifs, moins organisés. Et puis la dernière, la cinquième, c'est ce qu'on appelle l'ouverture aux expériences. L'ouverture aux expériences, c'est c'est l'intérêt et la curiosité pour tout ce qui va être nouveau, décalé, abstrait, les grands débats d'idées, voilà, qui fait que qu'on se place pas de barrière intellectuellement et qu'on est prêt même à épouser des idées complètement iconoclastes, à casser tous les carcans. Et à l'inverse, ces gens qui sont très très bas dans cette dimension vont être très très conservateurs, très figés, vont pas oser aborder certaines questions un petit peu dérangeantes dans le débat d'idées ou même choses comme l'art abstrait qui vont sembler très dérangeantes aussi. Ouais.
Grégory Michel, alors ce modèle, il vous paraît tout à fait bon toujours, l'extraversion, l'agréabilité, le névrosisme, l'ouverture à l'expérience et le caractère consciencieux?
Oui, ça c'est vrai que c'est le modèle, on va dire, des Big Five, qui connaît effectivement une histoire effectivement très très longue et qui permet effectivement de regrouper des dimensions dans lesquelles finalement chaque individu va se retrouver. Ce qui est aussi très intéressant, c'est justement cette notion de dimension. Ça veut dire que du coup, on va se situer à des niveaux ou à des éléments, on va dire, de la dimension chacun de façon très très singulière. Et puis il y a aussi des sous-dimensions, c'est-à-dire que quand on regarde effectivement chacune de ces grandes dimensions, on a là encore certaines caractéristiques. Sébastien en a parlé, par exemple, pour l'extraversion. On va avoir la recherche de sensations. Et donc, certaines personnes qui peuvent être, on va dire, extraverties, vont plus particulièrement se caractériser sur ce trait, justement, de personnalité. Et puis, il y a d'autres modèles aussi qui existent. Il y a d'autres modèles, il y a d'autres façons aussi d'évaluer, effectivement, la personnalité. Il y a des modèles qui sont plus, on va dire, psychobiologiques, comme j'en ai parlé finalement un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qui essaient de combiner, on va dire, des dimensions qui relèvent plutôt du tempérament et du caractère. Et puis ce modèle-ci, qui est effectivement un modèle assez, assez généraliste, mais qu'on va effectivement retrouver dans la plupart des populations.
Allez, on se retrouve dans un instant pour explorer donc les facettes de la personnalité. Et puis je vous transmets les messages des auditeurs qui arrivent sur le site de la Tête au Carré, juste après Calypso Rose et Leave Me Alone. C'était Calypso Rose avec Manu Chao à l'instant dans ce dossier Tête au Carré consacré à la personnalité avec mes invités Sébastien Bollaire pour Cerveau et Psycho qui consacre justement un grand dossier aux cinq dimensions, on vient de les évoquer, de la personnalité. Et puis Grégory Michel en duplex de Bordeaux. Alors justement Grégory Michel, quelle est votre dominante? C'est la question qui est posée à la une de Cerveau et Psycho. Et pour essayer d'en savoir plus, vous avez mis au point un test de personnalité. Comment est-ce qu'on parvient justement à faire un tel test?
Alors, c'est un test, on va dire, qui est adapté justement des Big Five, hein. C'est-à-dire que c'est pas une création, c'est une adaptation, on va dire, de ce test comme ça qui fait référence, de manière à pouvoir pour que chaque lecteur puisse effectivement se retrouver en fonction de ses résultats sur certaines de ces cinq dimensions, justement.
Alors justement, il y a une question de Larry qui nous dit ceci. S'il existe des personnalités difficiles, c'est donc qu'il y en a des bonnes et des mauvaises. Pardonnez-moi, mais ça me choque. Qu'est-ce que vous lui répondez, Grégory Michel ?
Alors, oui, il y a les personnalités difficiles. Qu'est-ce qu'on entend par personnalité difficile ? On va entendre notamment des personnalités qui vont généralement se situer justement à l'extrême de ces dimensions. C'est-à-dire des personnalités qui vont adopter, on va dire, un mode de fonctionnement, on va dire, rigide. Et qui va sans doute entraîner aussi une souffrance significative pour la personne qui présente ce type de personnalité, mais aussi à son environnement. Et puis on a ce qu'on appelle aussi des personnalités vraiment pathologiques et qui sont vraiment inventoriées, on va dire, par des manuels, on va dire, psychiatriques. Je pense notamment à un des manuels qui fait référence, c'est le DSM, où là on va avoir vraiment des personnalités pathologiques, comme par exemple la personnalité antisociale, la personnalité histrionique, la personnalité effectivement narcissique. Donc il y a vraiment deux façons, on va dire, d'évaluer ou de repérer, on va dire, ces personnalités.
Ouais, qu'est-ce qui fait la différence entre la personnalité et l'identité ? Ça, c'est une question de Jérôme.
Alors c'est compliqué parce que effectivement il y a tout un tas de concepts un peu adjacents à la notion de personnalité. Il y a l'identité, il y a la notion aussi de soi. Je parlais même tout à l'heure un peu en introduction de la notion de caractère effectivement et de tempérament. On voit qu'il y a des différences vraiment notables sur ces deux aspects-là. Après, l'identité, c'est sans doute quelque chose de beaucoup plus, on va dire, de beaucoup plus social. Ouais. C'est-à-dire que dans la personnalité, il y a vraiment aussi cet aspect, on va dire, dont je parlais, psychobiologique, qui est sans doute un peu moins prégnant dans l'identité, qui va s'appuyer sur l'adoption aussi de conduite et de rôle dans des situations sociales bien déterminées, que ça soit professionnel, amical ou autre.
Alors justement, les professionnels, les recruteurs en particulier, mènent des tests de personnalité. On va écouter l'extrait d'une émission qui s'appelle La Voix du Silence, avec justement une personne qui a fait l'objet d'un test.
On m'a fait passer des tests de personnalité. Bon, généralement, c'est 300-350 questions à répondre en une heure, 40 minutes, voire. Et puis, des tests d'intelligence. D'une certaine façon, on arrive à cerner votre personnalité. Ce qui est un problème, c'est qu'on arrive à toucher à la fois votre vie personnelle, affective, familiale, et puis votre vie professionnelle et vos réflexes.
Est-ce que vous avez donné les résultats de ces tests ?
On m'a donné les résultats, j'ai pas été retenu puisque j'étais pas motivé par rapport au poste, mais on me l'a expliqué, donc ce n'est pas frustrant.
Sébastien Boller, les recruteurs donc très intéressés par ces tests qui sont abondamment utilisés aujourd'hui.
Oui, alors il faudrait pas veiller à donner une image trop déformée de ces tests. Parce qu'en fait, effectivement, notre auditeur signale ce malaise qu'on peut ressentir peut-être face à certains tests. Alors, je ne sais pas quel test il a passé. Nous, on a posé la question à travers un des articles du dossier à Jean-Pierre Roland, qui est un expert international des tests de personnalité et de leur application dans le contexte du travail. Quelqu'un qui, on a tout de suite senti transpirer à travers lui dans l'édition de l'article, le grand souci d'éthique. Et il nous a toujours dit, il faut toujours qu'il y ait à la fois des tests de personnalité et des entretiens aussi. Parce qu'on peut pas avoir un test simplement sur papier sans rencontrer la personne. Et à l'inverse, avoir un entretien sans test, c'est pas forcément la chose idéale. Parce que on sait très bien qu'il y a des biais de désirabilité dans les entretiens d'embauche, que des candidats peuvent
essayer de donner la meilleure image
essayer de donner la meilleure image d'eux-mêmes, ce qui est pas forcément bon ni pour le recruteur ni pour le candidat qui peut se retrouver finalement à un poste qui est pas forcément fait pour lui. Et ce que nous a expliqué Jean-Pierre Roland dans cet article, qui fait vraiment le point sur cette question de la façon la plus neutre possible, c'est que, en fait, ces tests de personnalité, c'est vrai qu'ils sont un peu longs, ils sont un très bon prédicteur, en fait, de l'adaptation, finalement, du candidat à son poste. Que le but, c'est pas de priver la personne de son intimité, mais que c'est vraiment, c'est pas non plus une évaluation. Enfin, c'est une forme d'évaluation, mais c'est plutôt une forme pour essayer de repérer si les principales caractéristiques de la personne vont se prêter au poste. Il y a des cas typiques, par exemple, vous avez des emplois pour lesquels il faut respecter des procédures, mais de façon hyper pointilleuse, et le faire tous les jours sans jamais dévier d'un pouce. Vous êtes hôtesse de l'air, par exemple, il faut présenter exactement les procédures de sécurité, procédures d'atterrissage, tout ce qu'il faut, et il faut le faire tous les jours de la même façon, sans dévier. Et pour ça, par exemple, typiquement, une dimension de caractère consciencieux, ça va être très important pour tout le monde. C'est pas juste pour éliminer des gens ou les priver des chances d'avoir un emploi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un bas score dans cette dimension de caractère consciencieux va être très mal à ce poste-là et va potentiellement être source de danger. Donc les critères d'évaluation de ce point de vue-là sont quand même assez fiable, et même parmi les outils les plus fiables d'après Jean-Pierre Roland.
Grégory Michel, votre avis justement quant à la validité de ces tests de personnalité ?
Alors oui, moi je suis vraiment très soucieux de ce caractère éthique là qui a été mentionné. Alors c'est vrai que moi je suis pas du tout un expert en psychologie du travail, moi je suis plutôt en psychopathologie, mais une chose est sûre, c'est que justement la définition de la personnalité nous pousse à concevoir la personnalité comme une organisation, comme je disais, dynamique, hein, qui fait intervenir un certain nombre d'aspects, dans un souci d'adaptation à son environnement, à son milieu. C'est-à-dire que finalement, les choix que nous allons faire tout au long de notre existence vont être aussi déterminés par notre personnalité. Mmh. C'est-à-dire que le fait de permettre une évaluation effectivement de la personnalité d'un individu vis-à-vis effectivement d'un emploi va être aussi très important, parce qu'il ne s'agit pas de mettre cette personne justement dans une situation qui va être conflictuelle ou délétère pour elle.
Il y a Tristan qui nous envoie ce message du Québec et que je salue. Il nous dit « Je travaille sur la personnalité des espèces animales non humaines, des souris d'ailleurs en milieu naturel. » Il nous dit que chez ces souris, justement, plusieurs études ont montré qu'il existait une relation entre les traits de personnalité et les traits d'histoire de vie. Qu'en est-il chez l'humain ? Demande Tristan. Est-ce que cette relation, traits de personnalité, traits d'histoire de vie, a été documentée ? Grégory Michel, est-ce que vous voulez lui répondre ?
Oui, alors plutôt effectivement chez les animaux, on parle plutôt, on va dire, de tempérament que de personnalité, en tout cas à ma connaissance,
oui.
Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure.
Pour l'aspect biologique, hein.
Voilà, c'est ça. Après, oui, bien évidemment, quand je parlais effectivement de la dimension, on va dire, dynamique de la personnalité et qu'elle se façonne effectivement au cours du temps, bien évidemment, il y a des aspects historiques qui vont faire en sorte que justement cette personnalité va prendre une orientation ou une autre. En quoi effectivement, par exemple, ce tempérament va s'exprimer ou non de telle ou telle façon. On sait par exemple, je prends l'exemple de la recherche de stimulation, la recherche de stimulation va être une dimension qui va être impliquée par exemple dans des comportements de prise de risque, sur le plan de Paris, par exemple d'argent, va être impliquée par exemple aussi dans la toxicomanie, va être impliquée aussi par exemple dans des comportements de prise de risque sportive. Et donc ces éléments-là nous montrent qu'il y a des sorties comportementales qui sont effectivement clairement identifiées. Mais qu'est-ce qui va expliquer que certaines personnes ayant le même tempérament vont choisir effectivement ce type d'activité? Ça, c'est l'histoire de vie. Ça va être effectivement des rencontres, des éléments historiques, l'éducation, qui vont jouer un rôle déterminant.
Sébastien, les médecins prennent en compte aussi la personnalité de leurs patients ?
Alors, certains psychologues spécialistes de l'analyse de la personnalité, en tout cas, pensent que ce serait une bonne chose. Alors, je ne sais pas si les médecins le font toujours. Je crois que, globalement, ils le font sans doute encore très peu. Je ne crois pas que dans une consultation de généraliste, en tout cas, on fasse passer un petit test de personnalité. Alors, en psychiatrie, peut-être. Ça, il faudrait demander à Grégory Michel. En tout cas, l'idée, ce serait, par exemple... de faire attention à certains traitements qu'on pourrait proposer à un patient en connaissance de certaines de ses caractéristiques. Par exemple, voilà, vous avez un patient qui serait très introverti. Est-ce que ce serait une bonne chose de lui proposer des thérapies de groupe, étant donné qu'il n'oserait pas forcément jouer le jeu ensemble? C'est ce genre d'approche qui, en tout cas, serait encouragée par certaines personnes comme Jean-Pierre Roland, qui vient d'un bon œil. Voilà, une association entre les spécialistes de la personnalité et les thérapeutes qui pourraient essayer vraiment d'en tirer parti pour proposer la meilleure interface à leurs patients. Ouais.
Allez, on se retrouve dans un instant. Puis on va voir justement si on peut changer de personnalité au cours de la vie, hein, entre le petit homme et l'adulte, avec les messages qui arrivent toujours sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high.
time, just like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire. Ooh, I'm on fire.
I'm on fire.
Jane Birkin, quel sort de petite fille étiez-vous à l'âge de 7 ans?
Une petite fille admirative de mon grand frère, Andrew. Petit soldat de lui. Et j'avais ma soeur Linda, 4 ans de plus petit. On faisait un gang. Je crois que j'étais très classique.
J'habitais le Mexique et j'étais en fait très garçon manqué. Très turbulente, très dissipée, toujours zéro de conduite.
J'étais une petite fille insupportable, parfaitement insupportable. J'ai été expulsée de cette institution religieuse. J'inventais toujours des choses diaboliques. J'étais vraiment une enfant qui pensait qu'à faire rire les autres.
Ségolène Royal, quelle petite fille étiez-vous à l'âge de 7 ans?
Une petite fille qui aimait beaucoup l'école. Et qui était assez secrète, assez discrète, puisque au milieu d'une grande famille de 8 enfants, donc chacun dans ses grandes fratries cherche un petit peu à faire sa place. La mienne, je la faisais plutôt dans la discrétion.
Voilà, vous avez reconnu Jane Birkin, Ariel Dombal, Sylvie Joly et Ségolène Royal pour parler donc des traits de personnalité avec Cerveau et Psycho et mes invités Sébastien Boller et Grégory Michel. Grégory Michel, justement, ces traits de personnalité, cette personnalité, elle évolue au cours de la vie, mais est-ce qu'elle peut changer radicalement à un moment lié par exemple à des événements marquants ou traumatisants?
Oui, c'est-à-dire que cette personnalité, elle peut être vraiment modifiée suite, par exemple, à un événement traumatique qui va complètement donner une orientation à l'existence de la personne, mais elle va être modifiée tout en gardant, on va dire, une sorte de noyau dur vis-à-vis, justement, de sa personnalité initiale. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des événements, effectivement, qui sont prégnants, ça donne, effectivement, une modification importante. Mais on va retrouver, généralement, dans ce qu'on appelle les études longitudinales, hein, c'est-à-dire où on va suivre, effectivement, pendant de très, très longues années, comme ça, des individus, on va voir qu'il y a une sorte de décrochage au niveau d'un profil de personnalité ou d'une dimension de personnalité. Mmh. Et puis, progressivement, ça va revenir. Et dans les extraits qu'on a entendus tout à l'heure, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a déjà des éléments comme ça qui sont repérables très précocement et qui vont quand même aussi du coup évoluer et qui vont conduire à des modifications. Dans le tempérament, par exemple, il y a deux types, on va dire, d'évolution. Il y a une continuité qu'on appelle homotypique, c'est-à-dire en gros, le tempérament, il bouge pas. Hein, mm-hmm. Ça reste toujours de la même façon tout au long de l'existence. Et puis, on a ce qu'on appelle une continuité hétérotypique. C'est-à-dire que, reprenons par exemple l'extraversion, et bien, l'extraversion, elle va rester effectivement stable tout au long de la vie, mais elle va se modifier en fonction de l'histoire, effectivement, de la personne, en fonction aussi de son degré de maturité. Sauf que là, ces changements seront décelables sur le plan des attitudes, des comportements, mais ces personnes resteront toujours fondamentalement extraverties.
On voit justement dans le numéro 2 de Cerveau et Psycho, hein, Grégory Michel, les différentes évolutions, on va dire, hein, des grands traits de personnalité selon les âges de la vie. Et entre les garçons et les filles aussi, quelques différences, hein.
Oui, il y a quelques modifications, quelques différences. Alors, c'est des différences effectivement qui sont variables selon effectivement les tests, selon aussi les âges, c'est-à-dire qu'on voit effectivement dans le numéro que la préadolescence et l'adolescence est une période quand même clé. Mmh. Notamment dans la modification de la personnalité, avec des modifications chez des garçons, chez les filles, notamment vis-à-vis de l'extraversion, de l'ouverture aussi aux expériences.
Oui.
Et puis des diminutions qui vont au contraire s'accentuer après au cours de l'âge adulte. Donc oui, il y a vraiment un aspect, on va dire, développemental, et puis des caractéristiques qui dépendent aussi selon aussi le sexe.
Sébastien.
Oui, oui, ces évolutions au cours de la vie et selon les sexes font écho à peut-être certaines observations qu'ont pu faire les parents ou qu'on a pu faire soi-même quand on était adolescent. Moi, ce qui me frappait, c'est de voir que sur le domaine du névrosisme, par exemple, la stabilité émotionnelle, les courbes dont nous parlait Jean-Pierre Roland tout au long de la vie, on voit que la stabilité émotionnelle, la courbe des garçons est tout de suite celle des filles quand même, et qu'il y a un pic de névrosisme chez les filles à partir de 15-16 ans. Donc on voit que chez les filles, à partir de 10 ans, les émotions commencent un petit peu à palpiter, que ça atteint voilà un sommet vers 15 ou 16 ans. Là il y a vraiment une labilité émotionnelle qui explique ce pic dans la courbe. Après, il y a d'autres particularités. On voit effectivement globalement, les filles sont quand même un degré d'extraversion supérieur aux garçons. Voilà, que dans l'ouverture aux expériences, ça se vaut. Enfin, il y a quand même des différences d'un sexe à l'autre. Et des évolutions au cours de la vie avec ces moments à l'adolescence qu'on retrouve dans toutes les cultures, hein, sur tous les continents. Donc c'est quelque chose qui semble correspondre peut-être effectivement à une réalité biologique. Alors il y a aussi des recherches depuis quelques années sur la biochimie du cerveau, sur, vous savez, sur les allèles de certains gènes qui codent des récepteurs de certains neuromédiateurs dans le cerveau. Ouais. Et on voit qu'effectivement il y a une base biologique. C'est comme pour tout, hein, en psychologie, en neurosciences, il y a un mélange de gènes qui vont donner un terrain. Par exemple, typiquement, le terrain extraverti, la prise de risque, la recherche de sensations, c'est quelque chose sur lequel il y a beaucoup de recherches en neurobiologie moléculaire. Et comme le disait Grégory Michel, là-dessus se greffent aussi des événements de vie. Mais c'est enfin, typiquement le cas où la biologie et l'histoire de vie se combinent.
Grégory Michel, on va parler avec vous des personnalités difficiles et voir comment on peut fonctionner avec elles. Et justement, pour introduire cette discussion, écoutons ensemble cet échange corsé entre Klaus Kinski et Werner Herzog. C'est extrait d'un documentaire de Werner Herzog sur Je suis un film, sur le tournage justement d'Aguirre ou La colère de Dieu.
Non, attends, je le répétais. Ne me donne pas d'indication de jeu. Je ne supporte pas ça. Je peux le faire tout seul. Tu fais toujours dans la demi-mesure. Tu pisses de trouille devant les conséquences. Si tu veux quelqu'un d'enthousiaste, laisse-le s'enthousiasmer. Allume cette putain de caméra.
Non, elle reste éteinte.
Je le jouerai comme je veux.
D'accord, mais il faut que tu...
Garde tes conseils débiles pour toi.
Je peux parler.
Tu n'es pas un metteur en scène. Ouais. Tu dois m'écouter. Tu es un débutant, un réalisateur nain, mais pas un réalisateur pour moi.
Ouais, c'est ça, naturellement.
Voilà, très belle ambiance de tournage entre Klaus Kinski et Werner Herzog. Grégory Michel, on peut parler de personnalités un petit peu difficiles là quand même, non ?
Oui, je pense que là, c'est même une personnalité un peu mixte. Hein. Si on prend, on va dire, un peu les grands clusters comme ça de personnalités que l'on connaît, c'est vrai qu'il y a des éléments qui, sans doute, proviennent un peu de la personnalité antisociale. Il y a des éléments aussi qui touchent un peu l'identité et, du coup, un peu borderline parce qu'il y a effectivement, une certaine difficulté à gérer, on va dire, les émotions et surtout que ces émotions s'expriment sur un mode plutôt, on va dire, négatif et agressif. Donc oui, là, on est vraiment clairement dans une personnalité qui est compliquée, difficile pour tout le monde. Hein, du coup.
Ouais. Oui, ça c'est sûr, Sébastien Boller.
Oui, peut-être un peu de narcissisme aussi. Parce que j'ai compris, la relation Herzog-Kinski, c'était quand même quelque chose de légendaire. Je me souviens que sur le tournage d'un film en Amazonie, il y avait même des figurants qui étaient des indigènes qui étaient
en peur
et qui projetaient de l'assassiner pendant la nuit parce qu'ils pensaient qu'il était possédé par le démon.
C'est ça, oui. Il arrive à faire peur à des tribus justement d'Amazonie. Justement, ces personnalités difficiles, Grégory Michel, elles sont qualifiées de difficiles pourquoi exactement ? Parce qu'elles sont inadaptées à leur contexte, aux événements, parce que ça provoque justement des souffrances dans l'environnement ?
Oui, alors déjà, il faut bien qu'on définisse effectivement ce qu'on n'entend pas. Personnalité, même pathologique. Oui. Difficile, c'est une définition un peu tellement large que justement, ce que je disais tout à l'heure, on peut très bien inclure dedans des personnes qui vont coter à l'extrême des dimensions qu'on a présentées tout à l'heure à l'aide du Big Five. Quand on parle vraiment de personnalité pathologique, on parle d'un mode de fonctionnement durable. C'est-à-dire qu'on va évaluer la personnalité sur une longue période pour essayer justement de faire le tri entre est-ce qu'on est face à une personnalité pathologique ou un état, c'est-à-dire un trouble psychopathologique. Et donc, on va investiguer cela sous la forme, effectivement, peut-être d'auto-questionnaires, mais aussi d'entretiens semi-structurés. C'est-à-dire que là, l'entretien, on ne peut pas en faire l'économie. Et on va, effectivement, évaluer si ce mode de fonctionnement qui est là, justement, pathologique, va affecter un certain nombre de domaines. Le premier domaine, ça va être, on va dire, la cognition, c'est-à-dire la manière dont la personne va traiter l'information vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de l'avenir, vis-à-vis des autres. Comment, effectivement, il va gérer aussi son affectivité, c'est-à-dire ses émotions. Alors, en termes d'intensité, en termes d'instabilité, de l'habilité, effectivement, émotionnelle. Et puis, on va, bien sûr, évaluer le fonctionnement interpersonnel. C'est-à-dire, est-ce que tout ce mode de fonctionnement durable, d'accord, ancré durablement chez lui, et présent depuis longtemps, va affecter son fonctionnement, justement, familial, son fonctionnement professionnel, son fonctionnement adaptatif, au sens large. Et lorsqu'on va, effectivement, avoir déjà ces éléments-là, on va pouvoir essayer d'affiner pour essayer de constater si justement cette personne présente ou non une personnalité pathologique telle qu'on les reconnaît dans justement le manuel du DSM-5 par exemple, qui permet d'évaluer les troubles de la personnalité comme personnalité narcissique, antisociale, histrionique, etc.
Alors ce qui est fou, c'est que ça va atteindre le fonctionnement même de la personne. Je crois qu'il y a des études très claires sur l'espérance de vie des personnes dysfonctionnelles, hein.
Oui, les personnalités, on sait par exemple que les personnalités justement antisociales, les personnalités borderline sont des personnalités qui sont un petit peu, on va dire, un peu traumatophiliques, c'est-à-dire des personnalités qui vont se mettre dans des situations où ils risquent de rencontrer des traumatismes, d'être victimes d'accidents, d'être victimes effectivement d'agressions diverses, et leur espérance de vie, bien sûr, est affectée.
Sébastien Boller, pour conclure.
Non, mais ce qui nous a frappé au journal, c'était la proportion, effectivement, de personnes qu'on dit atteintes de personnalités difficiles, jusqu'à 20%.
C'est ça, de 9 à 25%.
Hein. Voilà. Et alors, évidemment, on en reconnaît une typologie, et ce qu'on a voulu donner un petit peu, on connaît tous le collègue parano, alors parfois on utilise ce mot à tort et à travers, mais ça existe effectivement. Là, c'est peut-être, confirmant Grégory Michel, plus la cognition qui est entamée, avec ce filtre qu'on place entre soi et les autres. Enfin, on a voulu donner tout un éventail, avec quand même pas trop, il ne fallait pas que ce soit trop long, mais on a un petit portrait de chaque personnalité difficile, il y en a
et une dizaine. Voilà. Et un test à réaliser justement par Grégory Michel, et c'est dans Cerveau et Psycho, sur les 5 dimensions de la personnalité. Merci beaucoup à tous les deux, et merci aux équipes de France Bleu Gironde qui nous ont permis ce duplex. Merci à vous Grégory Michel, au revoir.
Merci à vous.
Merci.
Et ce soir, nous allons donc souffler ensemble les 10 bougies de la tête au carré. Vous allez pouvoir nous rejoindre à partir de 20h jusqu'à 22h pour une soirée en public au studio 104 de la Maison de la Radio, donc pour fêter la science en compagnie des personnalités marquantes de la recherche. Et parmi ces invités, le duo Michel Brunet-Yves Coppens, le choc des rencontres entre les fossiles de Toumaï et celui de Lucie. Michel Brunet qui a découvert le crâne de Toumaï au Tchad. 7 millions d'années pour ce crâne après des années et des années de recherche dans le désert pour Brunet.
Quand vous allez aux champignons, vous partez le matin, puis vous revenez à 11h, et vous pouvez faire l'omelette. Moi, je suis parti un matin, je suis revenu 25 ans après. Et je me souviens, ma fille, qui avait une dizaine d'années, m'a dit « Et en plus, t'en as qu'un. »
Il est là, on le voit derrière nous en photo. C'est le crâne de Toumaï. 7 millions d'années.
Alors, ce qui est extraordinaire, par ailleurs, c'est que effectivement, puisque Mathieu vient de le dire, on a une histoire qui a au moins 7 millions d'années. Mais vous imaginez, Lucie est plus proche de nous qu'elle n'est proche de Toumaï. 3 millions à peu près de nous, un peu plus. 4 millions de Toumaï. Vous vous rendez compte le bond prodigieux qu'on a fait dans le temps ? Voilà, Toumaï est toujours là.
Ouais. Et 7 millions d'années, voilà. Yves Coppens, Lucie, 1974 quand même, hein. Et cette découverte donc de notre cousine Yves Coppens, quelle place a-t-elle sur notre arbre généalogique?
Oui, je ne crois pas que ce soit la grand-mère, et ça depuis le début. C'est alors il faut dire d'abord que c'est un petit squelette, que c'est un petit squelette qui n'est pas complet, mais qui est moins incomplet que les autres, qui a en effet 3 millions... pauvre Lucie, elle va m'engueuler ce soir. Donc elle a un peu plus de 3 millions d'années, et son intérêt est que, lorsqu'on l'a trouvée il y a 40 ans, elle était la plus ancienne.
Voilà, petite partie de ping-pong entre Michel Brunet et Yves Coppens à retrouver ce soir pour la soirée des 10 ans de La Tête au Carré, les grands noms de la science et puis également Nicole Ferroni, Frédéric Fromet et André Manoukian et bien sûr franceinter.fr et les vidéos de cette soirée que vous pouvez déjà visionner. Fabrice Drouel, bonjour.